RS avec Jeff Blanchet.
La journée selon Patrick Lagacé.
Salut Patrick.
Salut Jeff.
Je veux d'abord recueillir tes commentaires à chaud sur ce nouveau sondage qui vient d'être diffusé par Québécois, sondage sur les intentions de vote au provincial. La CAQ serait en avance à 37 % devant les libéraux à 28, le PQ à 19 et Québec solidaire à 9 %. Es-tu surpris de voir la CAQ aussi forte en ce 11 juin?
Ben non, parce que depuis quoi, un an à peu près, les sondages indiquent que la CAQ est en zone de pouvoir former un gouvernement. Puis après ça, est-ce que ça va être minoritaire, majoritaire? Ça reste à déterminer. Mais disons que ce sondage-là arrive après une tendance qui s'est maintenue assez longtemps. Après ça, est-ce que ça peut durer tout l'été? Est-ce que ça peut durer tout le mois de septembre jusqu'au 1er octobre? Ouais. Ça, c'est une autre question. Puis moi, tu sais, l'humeur politique des Québécois m'a suffisamment surprise des dernières années pour que je me hasarde jamais à dire « Hey, c'est fait ». Surtout, on est quoi là? On est début juin, juillet, il reste quoi? 3 mois? 3 bons mois avant l'élection, même 4 bons mois. Tu sais, tout le mois de juin, juillet, août, tout le mois de septembre peut se passer bien des affaires. Mais là, la CAQ confirme qu'elle est, comme on dit en anglais, en termes de sport, un contender. Mm-hmm.
La question qui était posée aux internautes, souhaitez-vous un changement de gouvernement? C'est 73 % des gens qui ont dit oui. Le PLQ a le vent en face, pas à peu près, là.
Oui, mais c'est ce qui arrive aussi quand ça fait 15 ans que tu es au pouvoir. Tu sais, des fois, je parle à des libéraux qui se disent, bon, comment ça se fait? Le Québec va bien, l'économie va bien, l'emploi va bien. Puis tout ça, c'est vrai. Les finances publiques sont aussi sous contrôle. Après ça, on peut s'obstiner sur la façon dont le contrôle des finances publiques a été atteint. Est-ce que ça a été trop vite? Est-ce que ça s'est fait au coût de compression trop grande en santé, services sociaux, éducation? On peut. Mais le fait est que notre cote de crédit est bonne, ça coûte moins cher pour emprunter. Le fait est que l'économie va bien, on est pas au plein emploi, mais pas loin. Donc, c'est vrai que ça va bien, mais ça fait 15 ans. Puis, c'est la formule que j'ai utilisée à un moment donné. Écoute, en 15 ans, là, j'ai eu le temps de rencontrer la mère de mon fils, j'ai eu le temps d'avoir mon fils, j'ai eu le temps de me séparer, d'acheter un chalet, de le vendre, ouais, d'acheter une maison. Il s'en passe des affaires en 15 ans. Et depuis 15 ans, ben, on a le même parti qui est au pouvoir à Québec. Mais à un moment donné, ça s'appelle l'usure. Est-ce qu'ils vont pouvoir transcender ça, Jeff? Sincèrement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas s'il y a une recette magique, mais un sondage comme ça, oublie pas une affaire, ça rend ton recrutement aussi pas mal plus difficile quand on t'envoie des maquettes de l'opposition. Et évidemment, par effet de miroir, ben, ça rend le recrutement de la CAQ pas mal plus facile.
Tu parles de recrutement, Patrick, avec le nombre de députés qui ont dit « Moi, cet automne, ça me tente pas », le nombre de ministres. Là, on va essayer de jouer la carte du renouveau du côté du PLQ. Là. Quand Robert Poetti a quitté, M. Couillard parlait de 109 au parti comme si c'était une excellente nouvelle. Enfin, on va pouvoir faire entrer des recrues. Mais dans les faits, ça sera pas si facile que ça. Là.
Non, ce sera pas si facile, ça c'est certain. Parce que à un moment donné, moi je trouve qu'il n'y a pas une énorme différence entre la CAQ et le PLQ. Okay? Au chapitre de la philosophie, les caquistes vont dire oui, mais nous, on est une coalition et puis on peut avoir plus de gens de plus grands horizons que le PQ ou le PLQ, et ça c'est vrai. Mais tu regardes le profil de certaines vedettes, tu regardes comment il y a eu une sorte de couloir entre la CAQ et le PLQ. T'sais, c'est pas un mur aussi infranchissable que de passer du PLQ au Parti québécois, par exemple. Donc, je reviens au recrutement. Si toi, là, t'es indécis, là, ça te tente de sauter là dans le service public, puis t'avais pensé au Parti libéral, puis que la CAQ vient cogner, ben tu regardes ce sondage-là, ça se peut que tu te dises, OK, écoute, c'est quoi la grande différence? C'est quoi le grand obstacle à ce que je me présente sous la bannière de la CAQ? Sincèrement, là, à moins que tu sois quelqu'un qui se lève avec le poster de Claude Ryan dans la face, qui, tu sais, Claude Ryan qui a énoncé les valeurs libérales du PLQ moderne, ben je vois pas pourquoi tu irais pas à la CAQ.
Ouais, puis le PLQ a beau vouloir promettre la victoire, c'est difficile. Là. Quand t'es électeur, tu veux gagner tes élections. Fait qu'imagine quand t'es candidat puis tu quittes un emploi qui est peut-être déjà stable pour te rendre en politique, tu veux encore plus gagner. Donc c'est sûr que pour Philippe Couillard, côté recrutement, ça va être difficile.
C'est plus le fun de te présenter dans une équipe qui va peut-être te donner une limousine. Puis tu sais, la limousine, c'est un symbole. Je pense pas que les gens veulent aller en politique juste pour se faire conduire de Québec à Gaspé puis de Gaspé à Hull, là. Mais la perspective d'être dans un parti qui peut mettre qui peut changer les choses, faire des lois et créer un changement, parce que si la CAQ devient le gouvernement, Jeff, ça va être la première fois depuis quoi? Depuis les années 60 que tu as un parti au pouvoir qui est pas le Parti québécois ou qui est pas le PLQ.
Ah oui.
T'sais, c'est sûr que si la CAQ vient au pouvoir, juste là, tu as un symbole de changement qui est très fort avant même d'avoir posé un premier geste de changement. Puis c'est sûr que ça peut motiver des gens à vouloir faire partie de ce changement-là.
Parlant de changement, Patrick, un des changements qu'on a remarqué, c'est dans la relation entre Donald Trump et Kim Jong-un dans les derniers mois. L'automne dernier, il s'envoyait promener sur Twitter. Il se traitait de Rocket Man puis de tout ce que tu veux. Et là, ben les deux, on les voyait tout sourire en se serrant la main hier au sommet de Singapour. As-tu l'impression qu'on fait surtout une opération marketing actuellement, ou est-ce que tu penses que ça va réellement déboucher à quelque chose?
Bien, c'est sûr que pour le régime nord-coréen, c'est une grande opération de marketing, c'est une grande opération de légitimité, parce que cette dictature-là, qui est probablement la dictature la plus répressive, la plus violente au monde, la Chine, comparée à ça, c'est une société ouverte, puis Cuba aussi, ben eux ont un problème de légitimité. Mais là, quand on te permet d'être d'égal à égal sur la même scène que le président des États-Unis avec les deux drapeaux superposés à l'infini, c'est sûr que c'est un message à l'intérieur de propagande extraordinaire. T'sais. Fait que ça, c'est une chose. D'autre part, t'sais, moi, que les deux se parlent, je trouve que c'est une bonne idée. Tant mieux. Plus des chefs d'État comme ça, de puissance belliqueuse, qui ont accès à l'arme nucléaire, se parlent, probablement qu'on est plus loin d'un conflit nucléaire, ou en tout cas d'une erreur qui pourrait mener à un conflit nucléaire. Ceci étant dit, regarde, moi je suis pas un spécialiste de la non-prolifération nucléaire, mais ce que j'ai lu de spécialistes, d'experts, c'est OK, maintenant, c'est quoi le détail? Parce qu'il y a quelque chose, il faut vraiment là faut faire un saut par-dessus la logique pour comprendre pourquoi la Corée du Nord accepterait de se départir de son arsenal nucléaire. La Corée du Nord s'est tapée des sanctions qui lui ont fait très mal pour se doter d'armes nucléaires, pour avoir un respect. Parce que, évidemment, tu peux pas envahir la Corée du Nord comme tu as envahi la Libye ou l'Irak, parce que tu le sais que tu risques de déclencher un conflit nucléaire. Ça tient, disons, les opposants comme les États-Unis en respect. Pourquoi est-ce que là, sur une simple poignée de main, sur un simple processus éventuel de négociation, tu accepterais de larguer ça? Ça, pour les analystes, c'est pas clair. Donc, il va falloir voir comment ça va se faire. Et après ça, comment on vérifie? Il y a énormément de zones grises là-dedans. Puis, tu sais, juste te rappeler que ce qui a mené au deal avec l'Iran, le deal que les États-Unis ont choisi de briser, ça a pris des années à négocier avant qu'on en arrive à une entente signée et qui était, somme toute, vérifiable. Là, t'arrives dans un régime qui est encore plus obscurantiste que l'Iran, t'as pas des années de négo derrière toi et tu vends ça comme un grand succès. Moi, je pense qu'il va falloir attendre où est le diable dans les détails, mais comme je te dis, moi j'espère évidemment qu'on va éviter tout risque d'une erreur qui peut mener à une guerre nucléaire.
On est encore loin de la coupe aux lèvres. Il va falloir voir comment ça va se développer. Puis il y a beaucoup de travail de diplomatie à faire là dans l'entourage de Trump. Oui, monsieur le président est allé prendre des photos puis est allé serrer la main de Kim Jong-un. Là, faut voir comment ça va se déployer dans les faits.
Tu sais, si toi, tu as accès à une arme qui m'empêche de rentrer chez vous, il faut vraiment que tu aies des garanties en béton pour accepter de prendre cette arme-là, la mettre dans un coffre, puis t'en débarrasser. T'sais, si on est pour faire une image simple, Donc, je comprends pas encore c'est quoi l'intérêt du régime nord-coréen ici. Et tu sais, là, tu vas dire, il y a des gens qui vont dire, ouais, mais tu l'aimes pas, Trump. Non, je l'aime pas. Je trouve que c'est pas un facteur, je te dirais, positif pour l'idée de la liberté dans le monde, pour l'idée de la démocratie dans le monde, pour le statut des États-Unis dans le monde, qui est un statut extrêmement important. Donc, tu peux me dire que je suis un hater, mais toute sa carrière a été basée sur des coups de promotion, des coups d'éclat qui font parler de lui puis de la bullshit. J'ai un peu de misère à penser que pour l'instant, c'est pas autre chose que ça.
En terminant, Patrick, je veux revenir sur la une de la Presse Plus de ce matin. Ta collègue Isabelle Haché avait des révélations intéressantes concernant la firme Influence Communication. On se le cachera pas, Jean-François Dumas a été un collaborateur dans notre émission. On a fait appel à lui à plusieurs reprises. Comment t'as reçu ça, ces informations-là, d'Isabelle Haché?
Ben écoute, moi-même, j'ai fait appel au service de Jean-François, je pense, pour un dossier que je préparais pour voir c'était quoi le poids média là, d'un enjeu, puis je t'avoue que j'oublie les détails. Puis j'ai d'autres collègues au journal La Presse et ailleurs qui ont fait appel à Jean-François. Moi, ce que je retiens de l'enquête d'Isabelle Haché, là, c'est que c'est... Le délit de Jean-François, le péché de Jean-François Dumas, je pense, là, c'est que il a laissé planer l'idée que sa méthode était scientifique pour calculer l'impact médiatique de certains phénomènes, de certaines nouvelles, de certains dossiers, de certaines personnes, alors que c'est pas le cas. Ce qu'on voit, là, dans les témoignages de ses 11 anciens employés, c'est que il y a aussi beaucoup de pif, puis tu peux pas prétendre que ta méthode est quasi scientifique quand ça tient aussi à l'instinct. Ben non, exactement. Donc moi tu sais, ça m'arrive de prendre, tu sais c'est quoi la base de données Eureka?
Oui.
La base de données Eureka là, pour situer les gens, c'est ce qui permet de faire des recherches dans le contenu médiatique québécois, canadien et certaines sources internationales aussi. Tu sais, si je veux savoir si je suis plus médiatisé que le Canadien de Montréal, je peux cocher là tous les principaux médias québécois, taper mon nom, puis taper Canadien de Montréal, puis je vais voir à quel point je suis vraiment moins médiatisé. Déjà là, c'est un bon indice. Donc, je comprends pas que Jean-François se soit allé à tremper son couteau dans le plat de crémage puis en avoir mis beaucoup, 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 beaucoup et beaucoup trop à la fin. Je veux dire, il a une bonne... je pense qu'il y a une bonne entreprise qui offre des bons services à des clients privés. Et là, pour se faire du capital marketing,
exact. Ben
il a mis beaucoup trop de crémage sur le gâteau et ça a fini par y éclater dans la face.
Toi et moi, on lui a donné de la visibilité au cours des dernières années, puis ça lui a sans doute permis d'avoir davantage de clients. Puis pourtant, c'est un bon communicateur, il a sûrement un bon service de veille médiatique,
oui. Mais
il a poussé un peu loin.
Il a poussé probablement un peu loin et là-dessus, sais-tu quoi? Il y a aussi de la part des médias, de la part de plein de médias qui ont fait appel à ces services-là pour commenter des articles, pour donner le poids média, ben il y a aussi une sorte de coup de semonce pour nous-mêmes, les médias, parce que on le savait pas c'était quoi la méthode. On ne l'a pas demandé. Moi, j'avais des échos des fois que, ouais, peut-être que c'est pas tout à fait étanche, sa méthode, mais pas plus fin qu'un autre, j'ai pas vérifié. Mais regarde, moi, je souhaite pas que Jean-François disparaisse du paysage, mais je souhaite qu'il fasse preuve de plus de rigueur quand il intervient. Il y a des outils qui mesurent des notoriétés puis des phénomènes, mais il va falloir accepter que tu peux pas mesurer ça comme tu peux mesurer un boxeur avant son match de championnat.
Merci beaucoup, Patrick. On se reparle la semaine prochaine.
Ciao.
Salut.